t'aime, que je 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 t'aime.
Oh, c'est gentil, mais pourquoi tu chantes comme ça?
Mimi, samedi soir, je te rappelle, on a soirée karaoké. Je répète.
Vous écoutez l'agité du local.
Je me suis toujours demandé ce que ça donnerait si on branchait un stéthoscope à la terre, au sol, là, sous nos pieds. Est-ce qu'on entendrait battre le cœur des festivals, celui du Gazoufest par exemple? Est-ce qu'on capterait les basses qui remontent des racines, les voix qui caressent les feuillages, les pas qui dansent entre les herbes hautes? Un festival, c'est pas juste une scène, un programme, un horaire, c'est une pulsation collective, un pari tendre et fou, faire tenir de l'amour, de l'art et des luttes dans un champ. C'est un peu une cabane qu'on construit ensemble, pour 3 jours et qu'on démonte en espérant qu'elle nous tienne debout un peu plus longtemps ensuite. Aujourd'hui, on tend l'oreille à Thibaut, le programmateur musical du Gazoufest, celui qui en coulisses accorde les battements, celui qui fait en sorte que le vendredi soir et le dimanche après-midi résonnent d'un même souffle. Bonjour Thibaut, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour, merci beaucoup.
Et puis, c'est pas tout, ce jeudi, c'est aussi donc, le jour du reportage Pensée Locale de la semaine, direction les bords boisés de l'Erdre, à quelques arrêts de bus du centre de Nantes. Là-bas, des bénévoles chaussent les bottes et retroussent les manches pour protéger les zones humides. Un chantier participatif orchestré par la Fédération des Amis de l'Erdre que vous racontera Sébastien Boutin de la Radio Prune à travers les mots de Gwendoline Monnier, chargée de mission en seconde partie d'émission. Et comme chaque semaine, c'est aussi le moment du micro-trottoir signé Adèle, notre petite nouvelle à l'enthousiasme contagieux. Elle est avec nous aujourd'hui en studio. Bonjour Adèle. Alors, sur quoi est-ce que tu as interrogé les Mayennais cette semaine?
Bonjour Margot. Alors, j'ai interrogé les Mayennais sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la littérature.
Super. Donc, restez avec nous. Ce sera juste après la première pause musicale. Avant de refermer cette émission, on retrouvera enfin Priscilla, notre chroniqueuse juridique, celle qui parle du droit comme personne d'autre, avec mordant humour noir et un sens du décalage bien à elle. Et même si Maxime n'est pas des nôtres aujourd'hui, je suis bien entourée. Malgré tout, il y a toujours Yann et Titouan en embuscade musicale et en préparation active de reportages et d'interviews à venir. Salut à vous deux, comment est-ce que ça va aujourd'hui?
Bonjour, bonjour, ça va très bien.
Bonjour Margot, bonjour à tous.
Alors moi c'est Margot, je suis contente, comme chaque jour, de vous retrouver, d'être là pour ce rendez-vous radiophonique avec vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et place maintenant à l'entretien du jour, puisque je vous le disais, je suis en très bonne compagnie aujourd'hui. Je suis avec Thibaut, le programmateur du Gazoufest. Vous êtes plusieurs à faire vibrer l'âme du Gazoufest, mais toi, tu composes la bande-son. Tu es le programmateur musical du festival, un festival pas comme les autres qui mêle fête, engagement, curiosité et émerveillement. Cette année, il aura lieu du 13 au 15 juin, toujours à Saint-Denis d'Anjou. On prend le temps aujourd'hui de découvrir donc les dessous d'une programmation pensée avec le cœur. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Peut-être pour commencer, Thibaut, pour qu'on apprenne à te connaître, comment est-ce qu'est née ton aventure, toi, avec le Gazoufest?
Eh bien, c'est venu... En fait, le Gazoufest, c'était une fête que je voulais organiser, moi, il y a longtemps, en 2018-2019, un truc comme ça. Pour mon anniversaire. Mmh. Et moi je fais de la musique, c'est mon métier. Et du coup j'ai plein d'amis musiciens et je m'étais dit bon, on va faire une grosse fête avec plein de concerts comme ça, mmh, en privé. Et tombé le Covid, cette fête a donc été annulée. Et puis en fait plus tard avec des amis, donc Chloé et Manon notamment, on s'est dit ah bah ça serait cool d'en faire un vrai truc et mmh, pas que ça soit privé et qu'on monte un vrai festival en fait. Mmh. Voilà, et donc en 2023 a eu lieu la première édition du Gazoufest tel que les gens le connaissent. Et donc c'est devenu un festival public, engagé et émergent.
Justement, alors comment est-ce que tu définirais l'identité du festival? Tu viens de dire quelques mots, engagé, émergent.
Ouais, alors en fait, le festival, on l'a vraiment construit sur des valeurs. Évidemment, une envie de créer un truc festif et estival, mais il y a eu quand même cette vraie recherche de valeur. Quand on a lancé le projet, on a tous les trois, avec Manon et Chloé, noté des mots sur des papiers pour savoir qu'est-ce qu'on voulait que ça représente, en fait, pour les gens et pour nous. Et donc, en fait, on a une vraie valeur sur l'émergence, comme je disais tout à l'heure, notamment par rapport aux artistes qui sont programmés. Mais aussi, on est aussi émergents, nous, dans notre création de festival, donc vraiment une grande dimension d'émergence. Nous, on est personnellement tous et toutes attachés aussi à la transition écologique. C'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur, donc Il y avait ça, vraiment cette dimension de comment est-ce que ancré en festival, on essaye d'avoir quelque chose d'assez écolo, parce que quand on crée un festival, forcément, on pollue, sinon on n'en ferait pas, quoi. Mais donc du coup, comment rendre cet événement culturel avec réduire l'impact carbone au maximum. J'ai parlé d'événements culturels, il y avait aussi l'histoire d'accessibilité. On voulait vraiment que ce soit un festival le moins cher possible, le plus accessible pour tous et pour toutes. Et ça me permet de dire aussi, pour tous et pour toutes, avec un point qui est très vite venu sur la table, le côté safe et égalitaire, où tout le monde peut venir, qu'importe le sexe, et que tout le monde se sente en sécurité sur le festival. Voilà, qu'il n'y ait pas de problème là-dessus.
Alors, c'est hyper important, effectivement, les différentes valeurs que porte le festival. On y reviendra un peu plus tard, peut-être, comme toi, tu es le programmateur et donc que tu as porté tous ces artistes, enfin, tu les as amenés, en tout cas, dans la programmation du festival. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette programmation de 2025, de cette troisième édition? Est-ce qu'il y a eu un fil rouge, une intention globale?
Alors, tout d'abord, du coup, on est deux à la programmation musicale. Je travaille avec Chloé dessus. Et il y a aussi une programmation d'artistes exposantes. Donc on a un village d'artistes où il y a des illustratrices, des photographes. Cette année, il y a une potière aussi, des tatoueuses. Et il y a une troisième programmation qui est la programmation de la scène Forum. Donc une programmation avec des conférences, des petits jeux. Il y a eu un karaoké l'année dernière qui a très bien marché. Voilà. Donc pour ma part, la programmation musique qu'on a fait à deux avec Chloé... On se base donc sur l'émergence, évidemment, comme je disais. Par rapport à nos idées de valeurs écologiques, de transition écologique, on part sur des artistes du Grand Ouest uniquement. Le but, c'est pas de prendre des camions qui viennent de Suisse, d'Allemagne ou même l'avion pour d'autres. C'est vraiment d'avoir des artistes. Donc, on a surtout des artistes, en fait, Angers, Tours, Le Mans, Nantes, Rennes. Voilà, c'est à peu près l'idée du secteur. Prendre des artistes émergents locaux. Et donc cette année, en termes de style, on est sur un style musique actuelle en général. Donc ça va de la pop au rap au rock à l'électro, enfin voilà. Il n'y a pas vraiment de style pré-ciblé, c'est vraiment éclectique. Et le but, c'est justement de montrer un éclectisme émergent. Donc cette année, on va avoir des groupes, je peux dire quelques noms. On a le vendredi, on a Supermoon qui fait de la pop, qui vient de Nantes. On a Duro, qui habite à Angers. Qui fait du rap. Il y a Graffiti, qui vient de Rennes. Coconut le lendemain. Henri, un groupe de rock de Rennes aussi. Et on finit en douceur le dimanche avec une programmation plus acoustique, avec Colibri, qui est un quatuor de Rennes. Et Agathe Plaisance, donc, qui a un projet qui est l'idée... par une Agathe, et ils sont deux sur scène, et ils viennent du Havre, il me semble, enfin de Normandie, je crois que c'est le Havre.
Voilà. On le dit depuis le début de cet échange, le Gazou Fest se veut donc engagé. Est-ce que, toi, dans ta manière de penser la programmation, tu l'as dit d'un point de vue écologique, effectivement, tu vas chercher des artistes qui sont proches de notre département, mais est-ce que aussi, peut-être d'un point de vue paritaire, il y a une présence importante des artistes féminines?
C'est vrai que j'en ai pas parlé. C'est un vrai défi, hein. Pour le coup, la première année on y avait pensé, mais on était un peu dans le bon, faut créer le truc, voilà, et c'est ce qui avait un peu pêché à notre sens, en tout cas. Donc on s'est dit bon, faut qu'on fasse quelque chose pour de vrai, qu'on mette les mains dedans, quoi, et qu'on s'attaque au sujet. Donc la deuxième année, on a vraiment fait attention à ça, et cette année, pour la troisième année, on a vraiment essayé de refaire la même chose. Donc on a été confronté à une problématique, c'est que c'est difficile de programmer une majorité, ou en tout cas une parité, une égalité homme-femme et minorité de genre. C'est difficile, et donc du coup, le problème étant que nous, c'est pas notre métier, cette programmation, on n'a pas toutes nos heures dessus. On fait tout notre possible, mais ce qu'on a trouvé comme compromis, c'est de mettre... on n'arrive pas à avoir vraiment le nombre de personnes physiques, autant de femmes que d'hommes, que de minorité de genre, mais... on essaye du coup d'avoir des groupes à lead féminin. Par exemple, l'année dernière, je pense à Jeanne et les autres. Ils étaient deux sur scène, il y avait un homme, une femme, mais c'est Jeanne qui dirige le projet, et donc c'est elle, pour nous, qui faisait... on met les femmes en avant dans la musique aussi, parce que hélas, c'est pas trop d'actualité. En vrai, c'est vraiment difficile dans le milieu musical. Ça arrive tranquillement, mais on est... faites de la musique, les femmes.
Parce que tu sais, je me demande toujours, à chaque fois que je reçois justement des programmateurs de festivals, j'entends effectivement régulièrement, c'est difficile d'obtenir la parité. En tant que spectateur, on a l'impression de se dire, tiens, on voit beaucoup d'artistes féminines, mais peut-être que finalement, parmi les artistes mises en avant, il y a un certain nombre de femmes, mais que si on regarde la globalité des artistes, peut-être dans la scène émergente aussi, particulièrement, les femmes ont peut-être moins d'accompagnement pour arriver jusqu'à une reconnaissance et une visibilité nationale, je ne sais pas ce que...
Bah c'est sûr, de toute façon, on vit dans une société patriarcale, donc par définition, ça vaut aussi pour la musique, évidemment. Et effectivement, le problème, c'est que les accompagnements, c'est vite rempli, en fait, quand on prend des SMAC. Je pense, je ne sais pas ce que font exactement le 6 par 4 ici, mais je pense à l'Antipode, à Rennes, ou Superforma, au Mans, les voisins. Où il y a des accompagnements, mais le problème, c'est que les passes sont vite limitées et des artistes, tous sexes confondus, il y en a énormément. Et c'est vrai que du coup, je pense qu'il y a un effort, une pensée d'aller vers l'avant qui est mis en avant par les structures qui gèrent le milieu culturel. Mais c'est difficile en vrai. Enfin, il y a aussi l'aspect que je pense que c'était difficile aussi pour la plupart des femmes du monde de se lancer, d'oser, de se dire je me lance. Enfin, j'ai l'impression
de se sentir légitime. Voilà, se sentir légitime. De cet ordre-là, ouais.
Voilà. Et je pense que c'est un sujet qui a été beaucoup plus mis en avant dans le milieu culturel depuis MeToo, depuis quelques années là. Enfin, en fait, c'est très récent. Et donc, je trouve qu'on est dans un tournant où on sent qu'il y a des projets féminins qui se lancent et ça tue. Il y a des trucs trop bien. Vraiment, je parlais de Jeanne et les autres tout à l'heure. C'était super l'année dernière. On a adoré. C'est vraiment trop bien et je pense que c'est le début. Et donc nous, on est vraiment dans cette histoire de, on veut mettre ça en avant parce que c'est important, la parité, et il faut que ça vienne, faut que ça soit plus ancré, quoi. Donc voilà. Et là, notamment, je parlais tout à l'heure du fait que je ne sois plus seul à la programmation. Et on parle des artistes, mais dans le milieu des programmateurs, programmatrices, je suis extrêmement content qu'on soit un homme et une femme à gérer la programmation et d'avoir une mixité aussi chez les programmateurs, programmatrices.
Et il y a également une programmatrice pour le village d'artistes, c'est Chloé, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, une autre Chloé. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être justement sur cette programmation du village ?
Alors pour le coup, le village a été pensé, la première année, on s'était dit justement, on s'était rendu compte du fait qu'il y avait très peu de femmes sur scène, sur la scène musique, ce qu'on appelle la scène cœur. Et donc, on s'était dit, bon, ça serait quand même bien d'équilibrer un peu et de proposer des artistes féminines aussi. Donc, la première solution, on voulait faire un village avec d'autres choses que la musique, avoir vraiment un truc pluridisciplinaire. Et donc, on s'est dit, le village, il sera exclusivement réservé à des artistes féminines. Voilà. Et donc, cette année, c'est la troisième année, et ça fait 3 ans qu'on fait le village exposante, qui marche très bien. On est ravis. C'est toujours un plaisir de pouvoir alterner les gens, en fait, ce voyage entre la scène cœur, la scène musique et le village. Et donc, du coup, c'est un village où on va retrouver... Donc, il y a un local avec des tatoueuses. Il y a des barnums, sinon, il y a eu des photographes, des illustratrices. Cette année, il y a une potière aussi qui est là. Voilà, le but, c'est vraiment que des artistes émergentes puissent montrer leur travail librement sur un festival où on est dans un cadre pour les festivaliers et festivalières de promenade. Et on se promène dans l'endroit du Gazoufest, dans le Gazoufest, et on peut discuter avec les exposantes, acheter des trucs, regarder ce qu'elles font, etc. Voilà, c'est l'objectif, donner une visibilité. Et Chloé, du coup, qui gère la programmation, fait également attention à la localité d'où viennent ces exposantes. Et cette année, on est très content parce que sur 9 exposantes, il y en a 3 qui viennent de Saint-Denis d'Anjou, donc du lieu du village où se passe le Gazoufest. Donc voilà.
On l'a dit, ce qui définit particulièrement le festival, justement, c'est l'engagement. Et donc, il y a ce que vous appelez la scène forum. Donc, c'est un lieu d'échange et de réflexion. Notamment, les éditions précédentes, on retrouvait déjà le collectif Caméléon 53. Il y a aussi une équipe tout au long du festival qui est présente et qui est responsable des violences et harcèlement sexiste et sexuel, qui est là en prévention. Toujours cette année, la présence du collectif Nana on Stage. Ça, c'est important de le rappeler aussi parce que ça fait partie des engagements et de la base du festival.
Complètement. Pour le coup, voilà, là, tu as parlé de pas mal de collectifs. C'est vrai que donc on a Caméléon 53, qui est un collectif qui rassemble plusieurs associations mayonnaises, qui sont axées vraiment sur la prévention. Donc nous, on trouve ça super important en milieu festif d'avoir un stand de prévention, ce qui n'est hélas pas le cas de tout le monde. Mais voilà, on trouve ça vraiment bien d'avoir ça et qu'il soit bien mis en avant. Effectivement, comme tu l'as dit, nous on a une équipe VSS, donc violence sexiste et sexuelle, qui est là à l'écoute et prête à intervenir sur place si besoin, parce qu'on est dans un milieu festif et effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, on vit dans une société patriarcale. Il y a 95 voire 98% du temps où ça se passe très bien, mais c'est important. Et ce qui compte surtout, nous, c'est si une personne ne se sent pas bien, elle a un lieu safe où aller pour être avec des gens et être bien accompagnée. Voilà. Donc effectivement, nous on attache une grosse importance à ça. Il y a une équipe qui tourne 24/24 sur site avec des bénévoles qui sont super. Donc voilà. Et tu as aussi parlé dans le même sujet du collectif Nana on Stage, qui est un collectif qui à la base était Tourangeau. C'était des Tourangelles, maintenant elles sont un peu plus séparées, mais elles sont dans le Grand Ouest toujours, et qui ont animé des tables rondes, effectivement, donc sur la place des femmes et minorités de genre dans l'industrie musicale. L'année dernière, c'était ça le sujet. C'était très intéressant, ça avait beaucoup plu aussi. Et elles animent également des mini-jeux pendant le festival. Donc il y a un blind test, il y a un karaoké. Voilà, le karaoké l'année dernière a été un vrai succès sur le festival. On s'y attendait pas tant, et même les filles Emma et Inès qui gèrent Nana on Stage étaient waouh, c'est fou. Donc on a eu un pic de personnes, l'ambiance a été super. Et
c'est
voilà.
Rendez-vous à noter pour cette année, du coup, c'est surprenant, c'est chouette.
Le samedi après-midi.
Est-ce qu'il y a donc, il y a toujours des tables rondes dans cette année des temps d'échange, il y a des thématiques particulières qu'on peut citer?
Alors pour le coup, les thématiques sont encore en cours de décision, tout n'est pas acté, mais voilà, il y aura encore Nana on Stage qu'on retrouvera, donc ça sera pas forcément, là j'ai donné un sujet très précis, la place des femmes dans l'industrie musicale, en général ça, comment on dit, le sujet global, mais voilà, elles ont des sous-sujets, elles vont dans des points plus particuliers pour approfondir. Là, donc, j'ai pas précisément de points à donner, mais effectivement, il y a ça. Il y a eu l'année dernière aussi une table ronde avec Umlaut, qui reviendra pas cette année, mais c'était des jeux sur les artistes, sur l'écologie, voilà. Donc, il y a pas mal de choses différentes à venir écouter en table ronde.
Un des points importants qu'on a pu aborder juste avant le direct de cette émission, c'est que finalement le cadre est exceptionnel pour ce festival. C'est plutôt un atout, ce cadre en plein milieu de la nature.
Tout à fait. Pour le coup, c'est on fait ce festival à cet endroit-là, à Saint-Denis-d'Anjou, parce qu'on est tombé littéralement amoureux du lieu la première fois qu'on y allait, et des propriétaires. Bisous Virginie et Fred. voilà, c'est un cadre qui est absolument magnifique, qui est très bucolique, beaucoup d'arbres. Le propriétaire est passionné de labyrinthes. Il y a 3 labyrinthes dans le lieu, dans des champs. Il y en a un qui est accessible sur le festival pour se promener, qui est magnifique. Donc, on sort vraiment on arrive dans une autre atmosphère, on arrive vraiment dans un cadre un peu idéal, un peu rêvé, quoi. C'est cool.
Et donc, pour rappel, le festival, c'est bien du 13 au 15 juin. Le lieu, c'est le domaine du Denay à Saint-Denis d'Anjou. Avant de terminer, le festival lance un appel aux habitants de Saint-Denis d'Anjou pour loger éventuellement les artistes.
Tout à fait. On cherche effectivement à loger des artistes qui viennent, bon, comme j'ai dit, pas forcément de loin, mais c'est pénible de prendre la voiture à minuit après avoir déchargé son matos et refaire 2 heures de route. Donc effectivement, on cherche des habitants, habitantes de Saint-Denis d'Anjou ou communes aux alentours qui seraient prêts à prêter, pourquoi pas, une chambre avec une salle de bain pour des artistes pour une nuit. Et on propose des invitations au festival en échange, évidemment.
Il y a également toujours une recherche de bénévoles.
Effectivement, donc si vous voulez venir nous soutenir, filer un coup de main, rencontrer du monde, profiter du festival aussi, on a un appel à bénévoles qui est sur Instagram ou sur notre site internet ou Facebook aussi, donc n'hésitez pas, il y a des missions à choisir, voilà. Servane et Louise sont les chargées de bénévoles, elles vous accueilleront avec plaisir.
Donc pareil, pour l'appel à habitants, on vous contacte via les réseaux sociaux ou le site internet, j'imagine.
C'est ça, et on a un mail aussi qui est accessible sur le site internet, enfin c'est contact@gazoufest.fr. Voilà, si jamais.
Merci Thibaut. Donc je le rappelle une dernière fois, le Gazoufest, ce sera du 13 au 15 juin au domaine du Denay à Saint-Denis d'Anjou. 3 jours pour vivre vibrer autant les pieds dans l'herbe et la tête. En fait, voilà, si vous hésitez encore, laissez la musique finir de vous convaincre, puisque Titouan, tu as choisi un artiste de la programmation pour la pause musicale.
Oui, on va écouter le groupe Coconut et sa chanson Keep Chasing. Marine et Louis, les deux membres du groupe, viendront samedi 14 juin à partir de 15h30, avis aux amateurs de pop folk.
Dans le silence, un oiseau qui s'éveille, une branche qui craque, un chevreuil qui s'enfuit.
Je me demande, et si on se confie mieux à quelqu'un qu'on connaît pas bien?
Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Maintenant, place à Adèle, en tout cas à son micro tendu, qui est allée faire un tour dehors pour recueillir quelques éclats de voix, au hasard des rencontres.
Est-ce que la littérature, ça évoque quelque chose pour vous, positif ou négatif?
L'évasion, les voyages.
Roman, actualité.
Je lis quand, de temps en temps, quand j'ai le temps.
Plutôt positif, beaucoup d'histoires, d'imagination et... de faits, d'informations aussi un peu.
Plutôt positif, hein, c'est la culture, se cultiver, tout ça, c'est ce qui me parle.
Ouais, vachement de culture générale, choses comme ça, ouais.
Bien, c'est les livres, ça m'évoque les livres, la lecture, donc tout ce qui concerne les auteurs contemporains ou moins contemporains, mais moi, c'est la lecture.
En plus, un moyen de s'évader aussi, je trouve, la littérature, c'est sympa, ça fait pour tout âge, hein. Même pour les enfants, c'est pratique, ils voient d'autres mondes et tout, et même en grandissant, on apprend des choses sur l'histoire et tout.
Votre dernière trouvaille littéraire?
Plus un auteur, un auteur philosophe astrophysicien Étienne Klein, que bah, c'est mes dernières lectures que j'ai faites, donc voilà.
Je prends ce que je trouve sous la main, beaucoup de livres recyclés.
Alors, j'en ai plusieurs, mais le problème, c'est que je me souviens pas souvent des noms. Mais j'ai beaucoup aimé, par exemple, un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, c'est Le siècle de Ken Follett.
La femme de ménage.
Le dernier livre de Thierry Marx.
C'était des romans, plutôt de la romance, du coup.
Je lis toutes sortes d'auteurs, par exemple, Arlène Coben, par exemple. Mais il y en a d'autres. Ce qui me manque, c'est le temps.
Un livre que ma prof de français m'a parlé, c'est La couleur des sentiments, sur la ségrégation raciale, et ça m'avait beaucoup plu. Et du coup, bah, franchement, je conseille.
Moi, j'aime beaucoup l'auteur Musso, qui fait des livres assez intéressants, des fois proches de la réalité, des fois un peu moins, et c'est ça qui est cool.
Là, je voulais trouver Sans alcool, de Touzard.
Est-ce que vous avez un auteur ou une autrice à nous recommander ?
Virginie Grimaldi.
En littéraire, non, moi, mes sources, c'est tout ce qui est botanique.
Bah, Amélie Nothomb, j'avoue que dès qu'il y a un petit roman qui sort, oui, j'aime bien. Assez incroyable quand même. Alors après, on accroche ou on accroche moins suivant les romans.
Amy Green, un truc comme ça, que j'aime bien beaucoup même.
Celui que je préfère vraiment, c'est Ken Follett. Celui que j'ai préféré, c'est Le siècle, mais il y en a eu plein d'autres. Hein, les trois jumeaux, je crois. Il y a Les piliers de la terre, oui.
Non, moi, pas spécialement. Vu que je découvre un peu tout, je touche à tout, donc pas spécialement.
Vous avez vu qu'il y a plein d'adaptations de livres qui sont sortis au cinéma, comme Le Comte de Monte Cristo. Est-ce que vous en avez déjà vu une dans votre vie ?
Effectivement, Le Comte de Monte Cristo, le film qui est sorti, qui est vraiment passionnant, intéressant. Mais
j'ai vu le film et j'avais pas lu le livre.
J'avoue que j'aime pas trop. J'ai parfois peur d'être déçue.
J'ai vu Le Comte de Monte Cristo et super bien joué. J'ai beaucoup aimé le film.
Non, pas encore. Je pense que j'aurai peut-être l'occasion un jour, mais pas pour l'instant. Je préfère les livres en vrai.
Je sais qu'il y a eu le roman de George Orwell, 1984, qui a été adapté sur Black Mirror et tout ça. Il y a eu un épisode qui s'en rapprochait vachement. Après, je sais que je ne l'ai pas lu, 1984, mais par l'adaptation en série, j'ai vraiment kiffé.
Nos étoiles contraires, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le film qui est super cool, donc ça me donne envie de lire le livre, justement.
Arlène Coben, il y a des films aussi qui sont sortis de lui, mais je préfère toujours le livre au film.
La télé, c'est pas mon truc, et le cinéma non plus, je suis pas cinéphile du tout.
Donc... Je préfère ne pas avoir lu le livre avant, ça me permet de mieux apprécier le film.
L'agité du local sur l'autre radio. Quand les mains dans la boue deviennent un geste politique, le rendez-vous est donné à quelques arrêts de bus du centre-ville de Nantes, au bord d'un chemin boisé menant à la rivière. Alors un groupe de bénévoles est réuni pour prêter main forte lors d'un chantier d'entretien participatif organisé par la Fédération des Amis de l'Erdre. L'objectif de cette association nantaise, créée en 1991, est d'impliquer le public dans la préservation des zones humides. C'est notre reportage Pensée locale de la semaine avec Sébastien Boutin de Prune qui a été rencontré Gwendoline Monnier, chargée de mission zone humide et animatrice de cette activité pour la Fédération des Amis de l'Erdre. Écoutez.
Seuls 11% des masses d'eau de la région sont en bon état écologique. L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Le rendez-vous est donné à quelques arrêts de bus du centre-ville de Nantes, au bord d'un chemin boisé menant à la rivière. Un groupe de bénévoles est réuni pour prêter main forte lors d'un chantier d'entretien participatif organisé par la Fédération des Amis de l'Erdre. L'objectif de cette association nantaise créée en 1991, impliquer le public dans la préservation de ce milieu naturel. C'est l'occasion de rencontrer Gwendoline Monnier, chargée de mission Zone Humide et animatrice de cette activité.
Donc la Fédération des Amis de l'Erdre, c'est une association qui existe depuis 30 ans et qui a pour but de préserver l'Erdre, son bassin versant, sa biodiversité, sa qualité de l'eau. Donc il y a deux grands axes. D'un côté, la préservation des milieux naturels et la qualité de l'eau. Donc on va faire beaucoup d'études sur les zones humides. On va regarder la faune, la flore, comment l'eau circule, comment ça fonctionne, pour mettre en évidence quels sont les enjeux sur ces secteurs-là. Et après, on met en place des mesures de gestion, de restauration des milieux naturels. Une grande partie de ces actions, que ce soit les inventaires et surtout les chantiers, sont faits avec des bénévoles. On implique les citoyens et les citoyennes. L'autre champ d'action de l'association, c'est l'éducation à l'environnement, à la nature. Donc on va faire à la fois des animations dans les écoles, les collèges, les centres de loisirs. Il y a aussi des sorties grand public pour parler au maximum de ce sujet-là avec une approche sensible et d'éducation populaire. Et il y a aussi une volonté de rendre la nature accessible pour toutes et tous. C'est comme ça, je sais, tout à l'heure je vous parlais du campagnol amphibie. Quand il faut aller le chercher, des fois, hop, je pense, il faut réfléchir campagnol amphibie. Donc, on se met tout bas et puis on essaye de regarder. Ok, où est-ce qu'il y a des petites galeries qui commencent? Et puis c'est là où on va venir remonter comme ça le chemin du campagnol amphibie. Donc là, on est devant une frayère à brochets qu'on appelle la frayère de la Noue, ici. Donc c'est une zone humide, donc il y a beaucoup d'eau dans le sol. Et c'est un endroit qui est un peu particulier parce qu'il se retrouve vraiment au bord de la rivière. Et donc c'est un endroit qu'on a restauré il y a 10 ans pour qu'il y ait les bonnes conditions pour la reproduction du brochet. Les lieux où le brochet peut se reproduire, c'est ce qu'on appelle une frayère.
L'idée, en fait, c'est de venir tailler tous les jeunes arbres qui repoussent. Donc l'avantage, en fait, vu qu'on le fait régulièrement, c'est qu'on n'a pas besoin de sortir la grosse tronçonneuse, on peut faire ça avec nos petits sécateurs. On vient couper bien à la base, donc vous voyez, il y en a un peu partout, et puis après, on les ramène tout en haut.
On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas, et donc on ne peut pas avoir envie de préserver ce qu'on ne connaît pas. Donc il faut connaître et être dans le faire, c'est un super moyen de connaître, et même plus de sentir, en fait. C'est savoir un nom, c'est bien, d'un nom de plante ou quoi que ce soit, mais avoir un lien particulier, comprendre cette plante, ce genre de choses, c'est quelque chose qui est plus fort et qui va donner plus d'envie aussi de préserver ces milieux-là.
Au beau milieu de la frayère, Ludovic, un bénévole de l'association, est à l'œuvre. C'est son deuxième chantier de la journée.
Gwendoline nous a demandé en fait de couper les repousses d'arbres. Il y a du saule, il y a du frêne de mémoire et il y a aussi de l'osier.
On avait compté qu'on a à peu près 150 à 200 personnes qui passent par nos chantiers, sur nos chantiers par an. Donc il y a des gens qui viennent qu'une seule fois, il y a des gens qui reviennent tous les samedis, comme tu as pu le voir. Il y a une petite troupe d'une trentaine de bénévoles que je revois régulièrement dans l'année.
Ce matin, on a remis une mare en état, coupé des arbres pour pouvoir ramener la lumière. On fait aussi 2-3 fois par an des ramassages à déchets le long de l'Erdre. Et on rouvre aussi hier quelques prairies.
Tout ce qu'on fait là, nos chantiers bénévoles, c'est un lien social entre les gens qui ne se seraient probablement jamais croisés. Des fois, on va travailler avec des associations de jeunes qui vont être en réinsertion. Des fois, on va travailler avec des personnes qui viennent d'instituts médico-éducatifs. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Et donc, tous ces gens-là, ils se mélangent et ils travaillent ensemble. Et travailler ensemble, tout de suite, ça crée du lien entre les gens. Et ça, c'est aussi hyper important. Aujourd'hui, on ne pourra pas faire de préservation de l'environnement sans faire du lien entre les gens, sans mêler le social et l'écologie sont étroitement liés. Et c'est ça qu'on essaye aussi de refaire à l'association.
Il reste juste un petit peu à finir de ramasser ce qui a été poché, donc on peut se mettre au râteau.
Okay.
Et puis je pense que dans 10 minutes on a terminé, on fait une petite pause goûter.
C'était L'eau, un enjeu de société, une série spéciale de la Frappe en partenariat avec Terre des Sciences, avec le soutien de la région des Pays de la Loire.
Et maintenant, c'est l'heure de notre rendez-vous juridique. Priscilla est avec nous pour démêler le droit avec clarté, surtout, et sans doute avec même plus d'un sourire. Jaune d'ailleurs souvent avec elle. Bonjour Priscilla.
Bonjour mes chers travailleurs des sévices à la personne. Bonjour Margot, comment allez-vous?
Eh bien ça va très bien.
Et qu'est-ce qui vous arrive? Je vous trouve un peu chafouine. C'est parce que vous n'avez pas reçu votre tablette gratuite après avoir téléchargé l'application Temu? Pour vous consoler Margot, je vais vous parler d'un sujet qui vous concerne éminemment. Les infections sexuellement transmissibles. Bienvenue sur la MSC Croisière. Et oui, c'est bientôt l'été, et avec lui son lot d'aventures sans lendemain qui donneront naissance dans 9 mois à des enfants appelés regrets ou coups d'un soir. Je ne vous juge pas, Margot, je suis pareil que vous. Après l'amour, c'est comme après Noël avec le sapin, je ne sais jamais quoi faire du cadavre. Là, on parle des risques inhérents à ces relations d'une nuit ou d'un quart d'heure. À peine le temps d'une vidange et ta vidange se transforme en cauchemar. Tu as chopé une IST. En préambule, je rappellerai le droit au respect de la vie privée protégée par l'article 9 du Code civil. Ainsi, nous parlerons ici d'une victime dénommée M, afin de respecter son anonymat concernant ce sujet délicat. Ceci étant dit, les IST, problèmes de santé publique, sont aussi objets de législation.
Comme vous parlez bien, Priscilla.
Merci, M. Margot, c'est toujours un plaisir de vous apprendre quelque chose. Chacune son tour.
No comment. En quoi les IST sont-elles visées par le droit ?
Eh bien, par exemple, en France, la transmission d'une IST, notamment le VIH, ça fait beaucoup d'acronymes, peut être sanctionnée pénalement. Bien qu'il n'existe pas d'infraction spécifique, plusieurs dispositions du Code pénal peuvent s'appliquer, comme l'article 222-15 qui punit l'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui. En l'occurrence, la substance nuisible, c'est le virus ou l'infection. On parle aussi parfois du délit de mise en danger de la vie d'autrui. Ainsi, une personne séropositive qui expose un partenaire sexuel au virus du sida sans le transmettre encourt 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. En cas de transmission, la peine de prison passe à 10 ans et l'amende à 150 000 euros. Mais la jurisprudence n'est pas totalement fixée sur ces questions. Chaque affaire est traitée au cas par cas et non au cul par cul.
Comment fait-on quand on est victime de cette transmission ?
Eh bien, il faut avouer que cette procédure n'est pas évidente. Pour porter plainte pour transmission de MST, M devra réunir plusieurs éléments. D'abord, la preuve que l'auteur connaît sa séropositivité ou son infection. Ensuite, la démonstration du risque de transmission. Et enfin, l'établissement du lien de causalité entre les relations sexuelles et la contamination. Ces éléments peuvent s'avérer difficiles à prouver, ce qui explique la complexité de ces affaires sur le plan juridique. Et attention, il y a des circonstances aggravantes. Par exemple, si la victime est le conjoint, cela peut amener le transmetteur du sida devant les assises. Ça devient donc un crime, puni de 15 ans de réclusion criminelle. Mais néanmoins, ça reste moins long que la lourde peine que constitue le mariage. Et même si on n'est pas sûr de sa séropositivité, le fait de ne pas se faire dépister alors qu'on a un doute, ne pas se soigner et multiplier les aventures peut entraîner une condamnation. Donc aussi bien pour vous, M, que pour vos partenaires, dépistez-vous. Je rappellerai ainsi la gratuité du dépistage sans ordonnance qui était réservée jusqu'ici au VIH. Eh bien, depuis le 1er septembre 2024, la gratuité est étendue à plusieurs infractions sexuellement transmissibles pour les moins de 26 ans.
Ah oui, lesquelles ?
Ah, je pressens votre intérêt, ma chère. Il s'agit des chlamydia, à ne pas confondre avec les fleurs, des gonocoques, et non, ce n'est pas un mollusque, un sourire pour la photo, et on dit tous ensemble syphilis, et enfin le virus de l'hépatite B, et B comme bouillave.
On en a fini avec les IST, j'ai un truc à faire au labo, moi.
Pas tout à fait, ma petite gourgandine. J'ai envie de vous parler d'un phénomène abject qui a pris de l'ampleur ces dernières années, le stilfing.
Qu'est-ce que
le stilfing, il s'agit du retrait du préservatif en cours d'acte sans le consentement de son partenaire.
Alors que dit la loi française face au retrait du préservatif sans consentement ?
Eh bien, de plus en plus de pays commencent à pénaliser le stilfing. En effet, quand le consentement à l'acte sexuel est conditionné à l'utilisation d'une protection, son retrait volontaire constitue un véritable abus qu'il conviendrait de sanctionner. Et pourtant, ici, le droit pénal montre ses limites. Hein. Les juges français pourraient envisager le stilfing, alors qui signifie furtif, hein, ou comme une petite tepu, hein, par un acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique, caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique. Ça, c'est la Cour de cassation qui le dit déjà en 2005. Et ça permettrait de sanctionner l'auteur pour violence volontaire. Mais on n'est pas encore très sûr du fondement juridique, puisqu'on est encore sur un phénomène qui n'est pas beaucoup passé devant les tribunaux, même si malheureusement, d'un point de vue sociétal, il est assez fréquent. Alors, pour info, mes petits louveteaux libidineux, pour parler de préservatifs, hein, donc les jeunes de moins de 26 ans peuvent récupérer en pharmacie sans ordonnance et gratuitement des préservatifs, et ce depuis le 1er janvier 2023. De même, M, notre cher M, peut aller dans un centre de planification ou d'éducation familiale qui assure des consultations gratuites et confidentielles, notamment pour les mineurs. Bon, en même temps, la gratuité en la matière, c'est normal, hein, les infections sexuellement transmissibles se refusent gratos, elles aussi. Pas besoin de coupons de réduction ou de cartes de fidélité, justement. En effet, une condition fondamentale de l'accord a été brisée, hein, dans, en l'occurrence, hein, quand on parle de stealthing, donc d'où l'intérêt de bien discuter avant la relation, l'intérêt de bien se protéger, et maintenant on a vu que pour les moins de 26 ans, c'est gratuit, et donc pour ne pas altérer ce consentement dans les conditions initialement convenues pour le rapport sexuel, même si la France ne prévoit pas de législation très claire, clairement, moi, je vous invite à déposer plainte. Parce que c'est un peu trop facile. Et moi, j'estime qu'on pourrait même considérer qu'il s'agit d'une sorte de viol par surprise. Surprise ! Je t'offre un sac herpès ! Non, non. Non, merci. Donc, même face à ce vide juridique, pour conclure, restons positifs. Et asexués, peut-être, non ? Oh, cette proposition ne plaît pas visiblement à Margot. Je vous aurais prévenu.
Merci beaucoup, Priscilla. À très bientôt.
Bah, tu écoutes quoi, là ?
Chut ! C'est la JT du local. Ça me détend les neurones.
Et c'est sur l'autre radio.
La JT du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Thibaut d'avoir été avec nous. Merci à Priscilla, Adèle, Titouan et Yann. Messieurs, qu'est-ce qui nous attend sur les ondes de l'autre radio ensuite ?
Est-ce que la loi nous libère plus qu'elle nous enchaîne ? Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensions-nous ? L'émission La Sagesse de Tugue vous interroge tout à l'heure à 19h.
Puis à 21h, qu'est-ce qu'on écoute ?
C'est All Blues qui va nous parler du festival Farm et Village de Drouge ainsi que des actualités bluesistiques. Je ne connaissais pas ce mot.
Merci messieurs. Moi je vous dis à demain pour le grand format de votre émission quotidienne. Ce sera un entretien avec Lily Léniel, rescapée du camp de Ravensbrück, et Bergen-Belsen, que j'ai pu rencontrer lors de sa venue en Mayenne avec la Vigie Mémoriale. D'ici là, laissez un détail sans importance devenir un souvenir agréable parfois. C'est comme ça que les belles journées commencent ou se terminent. Et puis s'il vous plaît, faites-le bien.
Bon bah c'est fini.
Tout de même, ça passe vite.